Sylvia est à présent devant eux et, tandis qu'elle fait l'effort de se tourner vers elle pour l'accueillir, se montrer aimable, elle sent sa robe qui tire un peu contre sa taille. À leur sourire réjoui, Sylvia ajoute le sien, avant de déclarer de façon à ce que tout le monde l'entende que c'est une robe d'Irène pour Barbara Stanwyck, n'est-ce pas? Elle acquiesce, mais elle aurait préféré qu'elle n'apprenne pas que sa robe était la copie d'une autre robe. Maria s'étonne. Habituellement, elle aime citer ses sources et ses références. « Oui, mais pas à ce moment-là, dit-elle, pas devant lui, pas avec cet aplomb, cette façon de nous regarder en nous faisant bien comprendre que si nous étions là, c'était grâce à elle, qu'elle était à l'origine de cette rencontre et régnait encore dessus. Nous n'osions plus nous regarder directement, il fallait d'abord la regarder elle, passer par elle, l'écouter raconter, par exemple, que 2 jours plus tôt, on avait saccagé leur appartement, qu'ils s'étaient retrouvés devant leur porte ouverte, fracturé, les yeux rivés sur le sol de l'entrée jonché d'objets. Nous avons attendu un long moment avant de trouver le courage de pousser la porte. « Et vous savez quoi ?» dit Sylvia en s'adressant bien aux deux. « Non, quoi ? Eh bien, Georges m'a laissé entrer la première. » Un cri, puis deux, puis d'autres retentissent au fond de la salle. Les serveurs tournent les têtes affolées. Les invités parlent plus fort, puis cessent tout à fait de parler, tendent le cou et l'oreille. 2 types ont encore dû se battre dans les cuisines, dit Sylvia, qui en tant qu'hôtesse aurait dû immédiatement s'éclipser, dire « je vais voir ce qui se passe », mais qui ne bouge pas. Donc, je vous disais, Georges m'a laissé entrer la première. C'est insensé, non, qu'un mari laisse entrer sa femme la première quand tout a été mis à sac. On ne sait pas sur quoi ni sur qui on peut tomber. Oui, dit-elle, c'est vrai. Et que s'est-il passé? On a marché ensemble dans toutes les pièces, on a constaté les dégâts en soupirant, puis on a tout ramassé, tout rangé. Mais depuis 2 jours, je ne cesse de revoir sa main. Ma main poussait cette porte, mes pieds s'avançaient dans le couloir avec Georges à ma suite comme un petit chien. Alors j'ai pris une décision. Elle ne demande pas quelle décision, enchaîne avec un empressement volubile fébrile. En 1948, Bob Taylor tenait la main de Barbara Stanwyck quand les ciseaux ont commencé à couper ses longs cheveux. La MGM a publié les photos. Sylvia dit qu'elle les a vues en effet, mais aussi qu'elle ne saisit pas le rapport. Mais les cris redoublent. Jette dans la réception des phrases que tout le monde comprend à présent. « Nous sommes ici chez nous, partez, partez !» Elle les énonce lentement, très distinctement. « Nous sommes ici chez nous, partez !» Comme si elle les entendait. « Partez, là !» pour la première fois devant Maria. Des phrases terribles, impensables, ajoute-t-elle. Certains serveurs déposent leurs plateaux sur les tables et enfoncent ostensiblement leurs mains dans leurs poches. « Voilà, c'est devenu comme ça maintenant, » dit Sylvia. « Ils nous détestent. » Ils auraient très bien pu se trouver dans l'appartement quand Georges m'a laissé entrer la première. Je ne peux pas rester avec un homme comme ça, vu ce qui nous attend. J'ai décidé de le quitter. » Elle regarde le médecin. « Qu'est-ce qui nous attend ? » lui demande-t-elle, comme si c'était lui qui avait prononcé la phrase. « Tu ne le vois donc pas ? » répond Sylvia. « Ils nous détestent, ils nous feront partir d'ici. Pourquoi rester dans un pays où l'on vous hait tant ? Parce que c'est chez nous, » proteste-t-elle. « Ce n'est pas ce qu'ils disent, écoute-les. » Elle tourne de nouveau les yeux vers le médecin, le supplie de dissiper la brume, le malentendu, attend qu'il dise quelque chose, déclare avec autorité que ce pays est le leur et que son bébé pourrait y naître et grandir, mais il ne dit rien et pose ses 2 mains à plat sur le piano. « Georges n'est pas homme à traverser une guerre, » dit Sylvia. « Quelle guerre ? » demande-t-elle, de plus en plus agacée, en pivotant d'un quart de tour vers le piano. Le jersey se tend brusquement sur son ventre, il forme peut-être un faux pli, un début de déchirure. Elle n'ose pas regarder, ne sait d'ailleurs plus où regarder. Elle aurait dû faire reprendre sa robe à la taille, mais elle a préféré se taire jusqu'au bout, faire son dernier essayage d'un air content, radieux, jusqu'à fermement contredire la couturière lorsque celle-ci a insinué qu'elle avait pris un peu de ventre. « Moi, je l'aurais vu immédiatement, » dit Maria, « surtout à la poitrine. Ça ne trompe personne, une femme enceinte de 3 mois. » Elle n'ose pas porter une main sur son ventre, de peur que Sylvia ne s'exclame aussitôt « Tu n'aurais pas un peu forci ?» ou que ses doigts moites ne salissent les broderies ivoires. Alors elle regarde les 2 mains du médecin à plat sur le piano, l'os du poignet qui dépasse de la chemise et de la veste, se dit qu'elle n'a jamais rien vu d'aussi puissant que ses mains-là, doit se retenir pour ne pas poser les siennes dessus. Le pianiste entonne une mélodie enjouée qui masque les clameurs. Quelques couples se mettent à danser. Les paumes quittent la surface du piano, laissent des empreintes humides qui s'évaporent instantanément. Elle se retient de vouloir recueillir cette vapeur en plaquant ses paumes dessus, l'eau de ses mains, la rosée de ses mains, pense-t-elle, les jambes soudain molles et brûlantes sous le long plissé, puis ses mains blanches, telles 2 ailes, s'ouvrent à la hauteur de ses épaules, se suspendent devant elle. Elle hésite, les revoit le matin même entre ses cuisses, se demande ce qu'il voit d'elle à cet instant et ce qu'il préfère. Lentement, elle dépose les siennes dessus, plus moites que jamais. Ils se mettent à danser tandis que l'agitation augmente partout dans la salle, que la valse des serveurs s'accélère, captive les regards de ceux qui ne dansent pas, les pétrifie. Elle aperçoit encore quelques instants l'air sévère de Sylvia, à présent flanquée de son mari et de son terrible secret, puis plus rien que le visage doux et rassé à qui elle s'entend dire « Flynn, désormais je vous appellerai Flynn, docteur. » Il ne s'étonne pas, il sourit. Tandis qu'elle le boit des yeux, elle ne dit pas « Mon Dieu qu'il est beau, mon Dieu qu'il me plaît », non, mais que ses mains qui sont si douces contre les siennes sont les mêmes qui malaxent de la chair et du sang toute la journée. Dans le vent de la musique et de la danse, elle songe qu'elle tient un homme rarement exposé à une telle lumière, une telle légèreté, la plupart du temps à l'œuvre au fond d'une mine où la vie lutte contre la mort, qu'elle assiste à une métamorphose rare, précisément tournée vers elle, comme son sourire, son air juvénile, radieux, qui lui donne soudain accès à toute l'humanité, ses profondeurs et sa surface, ses mines comme ses jardins, son obscurité et sa lumière. En dansant là avec elle, le soir, après avoir passé l'après-midi à mettre des enfants au monde, comme il le lui explique, pas moins de 4 depuis midi, après vous j'ai filé à l'hôpital, a-t-il dit, et là je n'ai pas arrêté, je n'ai même pas eu le temps de déjeuner. Il lâche un instant sa main, compte sur ses doigts, non, 5 enfants, dont des jumelles, une naissance difficile, un accouchement risqué, une mère épuisée, je vous passe les détails. Non, au contraire, donnez-les-moi les détails, a-t-elle envie de dire, les muscles, les tissus dégoulinants et vos mains gantées de dents, fermes et fragiles pour en extraire la chair neuve, fragile 2 fois de suite jusqu'à il y a 1 heure à peine. Des mains qui se lavent avant et après, longuement, des heures par jour, si on additionnait les minutes sous le robinet, les poils qui bouclent dans la mousse du savon, puis se lissent sous l'eau claire, pour de nouveau se salir, se souiller, s'enfoncer dans la matière visqueuse. J'ai juste eu le temps de passer prendre une douche et de me changer, ajoute-t-il dans un sourire si large qu'elle y voit tout le spectre des actions humaines. C'est bien à elle et rien qu'à elle qu'il fait don d'un visage qu'il ne montre à personne d'autre, celui d'un homme qui danse. « C'est inoubliable, dit-elle à Maria, encore aujourd'hui. Ce visage au-dessus de moi est un soleil avec lequel je me réveille, une lune sous laquelle je me couche, une sphère lumineuse dans mon ciel qui, depuis toutes ces années, n'a connu aucune éclipse. Et chaque fois ce nom qui l'effleure, en douceur, une plume, Flynn. Mais vous, Maria n'achève pas, à cause d'une quinte de toux. Tenez, dit-elle en lui tendant un verre d'eau, je n'aime pas cette toux, buvez un peu, à petite gorgée, Maria, à toute petite gorgée. » Après leur danse, chacun se replace de part et d'autre de Sylvia, qui ne tourne même pas la tête, interloquée, figée, mortifiée de devoir se tenir aux côtés de son mari ainsi désavoué, d'abord par ses propres paroles, puis par leur duo triomphant. Elle croit cependant l'entendre demander « Cry Wolf » 1947 avec Stanwyck et Flynn ensemble. Ils n'ont fait que se naver, non ? Sylvia est encore plus connaisseuse qu'elle en matière de cinéma. « Je n'ai pas vu ce film », répond-elle d'une voix claire, encore réjouie. Un serveur s'approche, leur propose des verres de jus d'orange et de tomate. Dans la lumière tamisée, la clameur qui enfle de nouveau, piquée à présent d'éclats de voix furieux, enragée, elle a soif, convoite les longs verres qui brillent comme des bâtons de sorbet translucides. « Jamais elle n'aurait porté de telles couleurs, dit-elle subitement à Maria, leur préférant toujours les tons neutres, les blancs, les beiges, les gris perlés, à cause du cinéma en noir et blanc, toutes les robes qu'on aimait, on les voyait ainsi, vous savez bien. « Ça vous est resté, dit Maria. Oui, comme vous dites, ça aussi, ça m'est resté. »